Bonsoir. Oui, je suis ailleurs en compagnie d'Eva Maria Berg et d'Albertine Benedetto, un fameux duo. Les mots d'azur, c'est parti! Je profite d'une résidence d'écriture où Eva Maria Berg et Albertine Benedetto se proposent de créer ensemble un spectacle poétique tiré d'un ouvrage bilingue écrit ensemble. Pour mener cet entretien et pour commencer, je vais dire deux mots de présentation de mes invités. Alors, excusez-moi pour la mauvaise prononciation de l'allemand, mais Eva Maria Berg est née à Düsseldorf, en Allemagne. A fait des études universitaires d'allemand et de français à l'université de Fribourg-en-Brisgau. Elle est domiciliée avec sa famille à
Waldkirch.
en Forêt-Noire, c'est-à-dire non loin de la frontière française et de Mulhouse. Elle séjourne régulièrement en France pour une participation à des coopérations, à des manifestations interdisciplinaires et transfrontalières. Elle est collaboratrice régulière des revues comme Levure littéraire, RAL, une revue alsacienne bi ou même trilingue, et enfin recours aux poèmes. Elle est membre, entre autres, du Pen Club germano-suisse. Elle a fait paraître plusieurs livres bilingues allemand-français, édités en France, dont Le Voyage immobile, paru aux éditions du Petit Véhicule en 2017, en collaboration avec Alain Fabre-Catalan, mais aussi La Mémoire des branchies, paru aux éditions Poepsy, Cloison à coulisses, aux éditions La Lune Bleue, trois livres aux éditions L'Atelier des Noyers, dont Étourdi de soleil, et puis Édimbourg, je vais le dire en français, Edinburgh ou Édimbourg, aux éditions Unicité. Albertine Benedetto, elle, a fait des études de lettres classiques, a enseigné le grec, le latin et le français au lycée. Elle vit ailleurs depuis 1992. Ses poèmes ont paru en revue, Friche, Aujourd'hui Poèmes, Revaux. Son premier recueil, Lustratio, a été édité en 2001 sous le pseudonyme d'Albertine Hérault. Et depuis, il y a eu plusieurs livres, et notamment Vider les lieux aux éditions Almanach, Gérardmer, poème pour trois voix aux éditions Pourquoi viens-tu si tard, Le présent des bêtes, lui aussi paru aux éditions Almanach, Glossolalie paru aux éditions Delamandier, et notez que Le présent des bêtes, paru en 2016 aux éditions Almanach, a reçu le prix Jean Follin. C'est un livre accompagné des dessins du peintre Henri Baviera. J'ajoute qu'Albertine Benedetto anime l'association Liber Libra avec son compagnon Gilles Desnaux, qui lui est auteur de théâtre. Ensemble, ils organisent régulièrement des lectures, des concerts, chez eux, dans leur très jolie maison. Alors Eva, bonsoir.
Bonsoir, Béatrice.
Albertine, bonsoir.
Bonsoir, Béatrice.
Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir et de vous entendre expliquer à nos auditeurs comment il est possible d'écrire à quatre mains quand l'image d'Épinal veut que l'écriture soit une activité solitaire, une activité de solitude. Et tout d'abord, comment vous êtes-vous rencontrés? Comment est venue l'idée de faire œuvre ensemble? Eva?
Pour la rencontre, c'était un grand plaisir de se voir la première fois au cadre du festival Quand la source. Je pense que c'était à l'année 2016. On a apprécié la poésie de l'autre, donc on s'est sympathisé et rencontré plusieurs fois après pour commencer déjà des coopérations, des traductions mutuelles. Donc notre premier livre commun, c'est Gérardmer, les trois voix, une des voix, grâce à Albertine. Je pouvais participer par la voix allemande, par ma traduction.
Oui, j'ajoute que Gérardmer, ça a été une très belle expérience parce que c'était poème à trois voix. Il y avait ma voix française, il y avait la voix d'Eva Maria allemande et la voix espagnole avec Adamondes. Et nous avons eu une session de travail toutes les trois qui a été vraiment très très stimulante.
Merci. D'après moi, ce n'est que mon ressenti, vos styles sont différents et évidemment vos langues sont différentes. Alors, qu'est-ce qui crée la cohérence et l'unité de ces mémoires du Rhin dont vous êtes les co-autrices?
Alors, je dirais que c'est d'abord l'idée de Gilles Desnaux, qui nous a réunis en nous imposant ce thème. Nous avons eu au début très peur, moi particulièrement parce que je ne connais à peu près rien du Rhin. J'y suis venue pour la première fois il y a 2 étés. Donc c'était vraiment une gageure. Mais ce qui me plaisait, c'était évidemment de travailler avec Eva Maria, puisque nous nous sommes rencontrés à plusieurs occasions, nous avons échangé beaucoup, donc nous savions que nous pouvions faire des choses ensemble.
Oui, c'était pour moi une très belle tâche ou imagination de travailler avec Albertine au sujet du Rhin. Une fois, on s'est réunis au Rhin, c'était pendant la pandémie. Les Français ne pouvaient pas venir en Allemagne, mais nous, on avait la possibilité de se voir à l'autre côté en France. Donc à Neuf-Brisach, au bord du Rhin, on était ensemble, c'était très marquant, les moments-là. Et peut-être là est née l'idée de Gilles de nous proposer ce sujet. J'aimerais bien ajouter ce sujet, lorsqu'il nous a proposé, il nous a demandé de ne rien écrire, d'attendre jusqu'au moment du début de la résidence d'écriture. Et donc ça a travaillé pendant longtemps dans nous deux.
Oui, effectivement, on n'a rien écrit avant, mais on y a rêvé, on s'est documenté. Moi, j'ai écouté beaucoup de choses. Eva a cherché énormément de documentation aussi. Et donc, ça a travaillé avant qu'on puisse se mettre véritablement au travail.
Et le moment du commencement, c'était fascinant. On avait échangé beaucoup pendant des heures, puis on s'est mis en travail, on pourrait presque dire jour et nuit. C'était comme une comme une éruption, je ne sais pas, une fleuve qui est sortie vraiment de nous deux avec deux voix qu'on a échangé pendant notre travail aussi. Mais chacun a travaillé pour soi-même pour enfin voir ce que ça donnait.
Donc chacune écrit et libère ce qu'elle avait accumulé pendant ces semaines de gestation, on va dire. Au moment de l'écriture, donc, il y a les propositions d'Albertine d'un côté, les propositions d'Eva de l'autre, l'une en français, l'autre en allemand. Comment ensuite vous faites texte commun ?
Oui, effectivement, on a d'abord écrit chacune de notre côté, même si chaque jour, on se lisait ce qu'on avait écrit. Et c'est vrai que la lecture et les échanges nourrissaient aussi la production d'après. Mais on a écrit chacune de son côté. Et après, une fois que c'était fini, moi, j'ai eu le sentiment voilà, que j'avais fini, Eva, de son côté, avait fini. Et on a pensé, et c'était la deuxième phase du travail, on a pensé au spectacle. Et là, on a fait un montage de nos textes, puisqu'on ne souhaitait pas avoir une lecture sèche, Eva d'un côté et moi de l'autre. On voulait vraiment mixer nos voix, puisque c'est aussi la thématique profonde du recueil, cet échange, ce va-et-vient entre une langue et l'autre.
Et donc, bien sûr, on a dû avoir les deux langues. Alors, c'était aussi un travail très intense de traduire nos textes. Donc, Albertine a fait la relecture de mes traductions, de mes textes en français, puisque je suis pas d'origine française, donc je suis pas née bilingue. Et par contre, j'ai traduit ses textes et elle a fait aussi, on en a discuté beaucoup. Donc, c'était un travail de plus et très important. Bien sûr, d'avoir les deux voix. Les deux voix, les deux langues. Oui.
On va peut-être lire un ou deux extraits de ce livre intitulé Mémoire du Rhin, édité par les éditions Pourquoi viens-tu si tard, avec des encres qui accompagnent le petit livre de Josette Digonnet.
Du Schloss à Baccarat. On ne voit que des ruines qui toisent une eau sauvage où nagent les reflets d'une chevelure. « À Baccarat, il y avait une sorcière blonde, » dit Brentano. « Où est-ce Apollinaire ?»« Sorcière toujours, celle qui envoûte le corps des hommes au prix de leur vie. Est-ce leur faute s'ils plongent dans leurs yeux verts? Souvent tu les as fermés, Juliette, sur les infidélités de ton petit homme, le grand Hugo. Toi qui longtemps n'eus pas la permission de sortir sans lui, et dus un jour te cacher derrière des rideaux, tes mains ont copié sans faillir des milliers de pages, hommages que l'on te rend aujourd'hui. Sur toutes ces femmes, des maîtres de tissu pour camoufler leur corps trop visible, menaces du couvent, anathèmes dans les trois religions sur ce corps délicieux et sacré, tant célébré dans les poèmes, à condition de renoncer à vivre. Corps poétique des Lorelai qui se jettent du rocher dans l'eau glauque, combien de fois a-t-elle sauté les 132 mètres, elle qui attend le véritable, l'indicible amour, elle sans cesse trompée, bafouée, harcelée, objet de fantasmes érotiques qui poussent les hommes à la mort pour leur échapper.
On va écouter Eva maintenant.
Selbst aus der Ferne und mit zeitlichem Abstand zu den Vergehen kommt jener Fluss zur Sprache, der trennt und verbindet, als seien die Ufer verschieden, obschon die Landschaft sich gleicht und jede Seite immer wieder auch noch die andere besitzen wollte, während doch heute längst alles aufgeteilt ist und die Grenze nichts als eine Wasserstraße zu sein scheint, durch die nie mehr Blut fließen wird. Même de loin, et avec un temps d'écart, depuis les crimes commis, ce fleuve vient à la parole, qui sépare et relie, comme si les rives étaient différentes, bien que le paysage se ressemble, et que chaque côté ait toujours voulu posséder l'autre en plus, alors qu'aujourd'hui, tout est divisé depuis longtemps, et la frontière semble n'être rien qu'une voie d'eau par laquelle plus jamais aucun sang ne coulera.
Merci. Alors je pense que déjà, on peut sentir deux voix et deux sensibilités. Donc là, on a mis l'accent un petit peu sur une forme de féminisme. Et chez Eva, toujours ce regard particulier que vous posez sur les choses. Alors, selon moi, la force de votre écriture, Eva Maria, c'est d'abord le regard, ce fameux regard que vous posez sur le monde. Un regard débarrassé de préjugés et par lequel vous donnez accès. Et le lien se fait toujours entre un contexte particulier donné et des questions qui peuvent atteindre le métaphysique, questions plus générales que vous ne manquez pas de soulever. Quant à Albertine, pour moi, la force de votre écriture, ce serait plutôt de susciter l'éveil des sens. Il y a un esprit de célébration qui se dégage, une expérience de vie qui veut lui dire merci à cette vie, bien que souvenirs et nostalgie ne soient pas exempts non plus de vos livres. Ce qui m'intéresserait maintenant de savoir, alors bon, moi j'ai ma perception des choses, mais comment vous ressentez l'écriture de l'autre, l'une et l'autre? Quel regard posez-vous sur la langue poétique de l'une et de l'autre?
Tout d'abord, je pense ce qui est, je dirais, élémentaire. Je ressens dans la poésie d'Albertine, qui en effet est très différente de la mienne, qu'il y a quelque chose qui nous unit. Alors, une idée ou une vue sur l'humanité ou une vision humanitaire qui nous est vraiment propre à toutes les deux. Et ça, c'est aussi, je pense, la base de notre coopération et de notre amitié.
Oui, alors je dirais que bon, ce qui ne se voit peut-être pas là dans ce livre particulier, je dirais que nous avons une chose en commun qui est peut-être la densité. Dans ce livre-là, c'est vrai que j'ai conçu la parole poétique comme un fleuve de mots, et donc plus une prose qui s'écoule, alors que dans mes autres livres, il y a la forme du vers, et des vers souvent très concis, et donc j'essaie de dire beaucoup de choses en peu de vers, et ça, c'est aussi une caractéristique de la poésie d'Eva Maria.
En second lieu, je dirais que ce qui nous unit, c'est finalement la question du politique, que ce soit à travers ici le corps des femmes, dont on parle beaucoup quand même depuis ces dernières années, ou encore la dénonciation des crimes contre l'humanité, et Dieu sait qu'il y a de quoi faire, ou encore la question écologique, là, qui est présente dans notre dernier recueil. Donc finalement, nous avons beaucoup de choses en commun.
Je rappelle que vous écoutez Les Mots d'Azur ou La Poésie en direct et je suis en compagnie d'Albertine Benedetto et d'Eva Maria Berg. Toujours garder le doute, ne pas se perdre dans les mots. C'est ce que vous écrivez, Eva Maria, dans Mémoire des branchies. C'est un petit livre au format carte postale propre aux éditions Poepsie, dirigé par Daniel Faugeras. Alors, est-ce un principe? Est-ce une ligne de conduite? Est-ce une façon d'être et de se sauver? Je relis, toujours garder le doute, ne pas se perdre dans les mots. Est-ce que vous pouvez commenter ces trois vers, Eva?
Je pense, les doutes, c'est la préambule du travail. Alors, jeter le regard ou ressentir des choses et d'abord mettre en question. Et ça commence par moi-même. Je me mets en question en voyant et en cherchant un chemin. Ce sont des questions vraiment existentielles. Toujours des doutes et en même temps chercher des lignes qui pourraient peut-être être poursuivies ou essayer d'exprimer. Dans ce cas-là, il faut prendre les mots. Et ça, c'est la difficulté, bien sûr. Il faut mettre aussi en question les mots, puisque beaucoup de mots, plein de mots sont usés. On les connaît trop bien. Il faut trouver vraiment la poésie qui met en valeur chaque mot et met en question aussi ce qu'on dit en même temps.
Donc, je vais passer à Albertine. Est-ce que le doute tient aussi une grande importance pour vous? Comment se construit-on une conscience où le doute joue les arbitres? Peut-on lui délimiter un périmètre de sécurité?
Alors, je dirais que je suis de plus en plus habitée par le doute. Au début, quand on est tout jeune, on fonce, on a plein de certitudes, et puis petit à petit, elle s'effrite, et ça, je crois que c'est normal, c'est la vie, c'est la lucidité qui veut ça, l'exercice de la conscience. Et en même temps, peut-être paradoxalement, plus on doute, plus on s'enracine dans ce qui est essentiel.
Alors, j'ai sélectionné deux poèmes, l'un d'Eva et l'autre d'Albertine. Les voici. De Eva Maria Berg, là où tournaient les oiseaux, se perdent les regards des hommes en quête de refuge. Et puis d'Albertine, l'espoir d'Orphée. Ce fit rossignol pour lui ouvrir la nuit compacte de la mort. Ce soir encore, le chant cartographie l'espace, desserre l'ombre, ouvre des chemins clairs. Les oiseaux apprivoisent le silence qui se met à briller. Autour, la nuit reflue, prairie d'avril, où ruisselle le champ, des hommes migrateurs ont cherché ailleurs des routes marines, leurs ailes trouées d'un espoir trop lourd, leurs bouches désertées, muettes sous la mer. Alors on entend bien que vous pensez toutes les deux à la même chose, qui vous attriste toutes les deux. Eva, avec sa façon synthétique, énonce à la façon d'un aphorisme le ressenti, l'émotion qui déflagre en nous après écoute ou après lecture. Albertine, en miroir, part de son émotion, pose devant nous la compacité de la mort, mais avec la notion d'espoir et son pouvoir rédempteur. Y a-t-il une raison que vous sauriez commenter ou analyser pour ces deux approches différentes ?
En écrivant, en essayant d'écrire, c'est un processus et le poème en sort. Ce sujet qui est un sujet qui nous concerne tous, d'une manière très très forte la fuite partout presque, l'existence des exilés ou à la recherche ou en perdant leur vie. Ça me touche énormément. Et cette empathie que je ressens, comme les autres certainement, cherche à trouver un chemin de s'exprimer dans une, oui, tu as dit, densité qui peut-être peut être choquant, mais c'est choquant, et en même temps essaie de dire clairement, dans peu de mots, ce que je ressens, mais ce qui n'est pas exprimé directement par un sentiment, mais par le regard, par exemple. Le regard qui n'a que le ciel et se perd dans le ciel.
Alors, dans ce cas particulier, c'est vrai que c'est une question... Ce poème est assez ancien, mais malheureusement, il est toujours d'actualité. Donc, c'est une question brûlante et qui nous touche toutes les deux de la même façon. Cela dit... Si je n'étais que dans de l'énoncé de ce qui me m'affecte, ça serait presque insupportable, je pense. Et donc, je crois que j'ai besoin de faire un détour par ce qui reste de beauté possible.
Aussi, je pense pour nous deux de la manière de s'exprimer dans un poème, on donne la voix aux personnes qui n'ont plus de voix. On essaie au moins, chacun de sa manière.
Alors ça tombe bien parce que, Eva, j'ai là, devant les yeux, un poème intitulé « Pour Nina de Bosnie ». Est-ce que vous voulez bien le lire en allemand ?
Volontiers. J'aimerais bien ajouter... c'est Nina, je l'ai connue et c'était à l'époque 1995 à peu près où ça se passait. Et après, beaucoup après, j'ai écrit ça. Für Nina aus Bosnien. Du fliegst mit deinem Rad auf spätem Frühlingsduft. Die Trauer sinkt in das Gepäck. Passt nur das Lied von einem Baum im Glück, kann nie die Rede sein. Von Noten und Musik schallt dir das Ohr so voll, aus jedem Haus ein anderer Ton erfüllt die Klingel. Vor dem Läuten stürzt du den Lenker in den Zaun, malt sich das Muster mit den Augen, erblickst du zwischen Laub den Raum, der Stimmen überbrückt.
Le français aussi ?
Le français, oui, ou Albertine, je ne sais pas.
Pour Nina de Bosnie. Tu t'envoles avec ton vélo sur les effluves tardives de printemps. Le deuil s'enfonce. Dans les bagages, nulle place, sinon la chanson d'un arbre en joie. Plus jamais mention de notes et de musique. L'oreille te retentit si amplement de chaque maison. Un autre son emplit le timbre avant de sonner. Tu renverses le guidon dans le grillage, se profile le dessin. Tu aperçois des yeux entre le feuillage l'espace qui jette un pont entre les voies.
Donc, je voulais quand même dire que ce texte était extrait de L'absence quotidienne. Et ça se dit en allemand...
Die tägliche Abwesenheit.
Merci. Donc ce poème qui vient d'être lu fait écho au drame vécu par des millions de gens, soit déportés, soit déplacés, soit fuyant des guerres, soit fuyant la misère, soit fuyant des pays sous le joug de régimes tyranniques. Et l'on sait que l'Allemagne d'Angela Merkel a accueilli plus de réfugiés que partout en Europe. Et ces réfugiés, ces migrants, ont vécu des choses traumatiques, dramatiques, sur lesquelles bien des gens ferment les yeux et les oreilles pour ne pas se trouver dérangés dans leur confort et leur vie. Et somme toute, sans vouloir juger, il y a de l'égoïsme là-dedans. Quand vous écrivez ce poème pour Nina, voulez-vous alerter, voulez-vous témoigner, ou bien n'y a-t-il aucune intention ? Juste porter le regard et dire ce qui vous touche.
Tout d'abord, ça me touche. Et donc, j'avais besoin d'écrire le poème. Et en même temps, ça ne peut pas séparer entre tout ça, témoigner et aussi donner la voix à Nina. Tout ça va ensemble, je pense.
Albertine, je vais vous demander de lire un extrait de « Vider les lieux », donc publié chez Almanach.
On a des meubles pour y ranger sa vie. La hache et le billot hors d'usage, à présent qu'on est chez soi. Loin la forêt prédatrice, enfermée aux pages du conte. Des meubles domestiques frottent leur dos au mur. Buffets pansus et garnis, on s'est mis en ménage. Être dans ses meubles comme être dans sa peau. Objets, choses, bibelots, d'autres peaux qu'on entasse. Reste une inquiétude tout au fond, des arbres dans le noir.
Merci. Les deux derniers vers, à mon sens, disent beaucoup sur votre façon d'appréhender la vie. Il y a chez vous souvent de l'enthousiasme, de l'espoir, de la gratitude à vivre, mais dans ce paysage que vous voulez lumineux, rôde une sombre angoisse. Est-ce que vous la diriez venue de loin et des époques préhistoriques, quand les humains étaient démunis face aux rigueurs et à la rudesse de la vie, ou bien est-ce le monde d'aujourd'hui qui laisse planer des menaces, ou bien tout simplement la conscience aiguë d'être mortel?
Vous avez tout dit, Béatrice. Il y a chez moi, effectivement, très très profondément enracinée cette conscience du caractère éphémère de la vie et du caractère très précieux par conséquent de cette vie et de ce destin inéluctable. Alors ça peut sembler très très banal, bien sûr, et en même temps, quand on le vit, je dirais sincèrement, au profond de soi, ça peut être extrêmement perturbant. Donc la poésie vient conjurer ce spectre de la mort. Il y a le spectre de la rose et le spectre de la mort. C'est comme souvent quand je vis des choses, quand je voyage, je fais beaucoup de photos, j'adore les photos, mais je me dis aussi que parfois les poèmes sont bien meilleurs que les photos, c'est-à-dire que c'est par le poème que je vais arrêter ce temps qui nous dévore. Donc je crois que c'est ma première source d'inquiétude au sens étymologique du mot. Après, bien sûr, je suis extrêmement sensible à ce qui se passe aujourd'hui, à la folie du monde. On n'a pas assez de mots pour dire ce qui nous menace aujourd'hui. Et quand je dis nous, c'est bien sûr l'espèce humaine. Donc ça, c'est extrêmement présent chez moi aujourd'hui.
On va revenir vers vous, Eva Maria, et je vous cite, en français bien entendu. Des maisons ici et là se tiennent, fenêtres ouvertes. Pourquoi ne se demande pas un seul passant? Est-ce que je ne saute pas dans la vie des espaces? Alors, comme souvent, je trouve que dans vos observations, il y a à la fois de la candeur enfantine, le poids de la maturité, de l'expérience et de l'âme humaine. En effet, pourquoi se laisse-t-on paralyser par des habitudes, par des vies raisonnables? Pourquoi ne saute-t-on pas plus souvent par les fenêtres pour respirer un air plus frais, plus tonique, plus stimulant? Alors, quelles peurs nous retiennent que le poète essaie de surmonter?
Dans ce poème cité, pour moi, c'est même l'essentiel de faire le pas vers l'autre. Donc, sauter dans la vue. Pas dans la vie de l'autre, mais vers l'autre. Et je trouve c'est la part le plus essentielle, humain, de chercher des chemins communs, d'avoir le regard pour l'autre, échanger avec l'autre. Et ça, c'est la plus grande vision humaine pour moi-même. Et c'est lié à beaucoup de difficultés, bien sûr. Comme vous avez déjà dit, il y a plein d'habitudes, il y a des normes. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et on est grandi avec ça. Mais il faut essayer, à mon avis, toujours de nouveau, de mettre en question ce que sont les habitudes et de chercher une ouverture, vraiment une ouverture c'est pas l'égoïsme de se libérer, mais de se mettre vers l'autre, d'essayer de faire ce pas, malgré soi, malgré la peur qu'on a.
Comme on dit un peu en anglais, sortir de sa comfort zone.
Oui.
D'accord. Alors, pour faire écho au poème et au propos d'Eva, voici un de vos poèmes, Albertine. Nous voilà pris à la chaîne de nos pieds et de nos manques. Albatros des temps nouveaux, comme il est gauche et veule. Nous nous sommes crus géants, juste des ogres prêts à ingérer la terre entière. N'épouvante qu'eux-mêmes, redevenus petits enfants sans la grâce des commencements. Infants, infantiles, ne sachant voler qu'avec de lourds jouets et pas de mots assez légers sur la langue pour chanter le printemps. Alors, Albertine, vous faites aussi ce constat des chaînes, et pour beaucoup inconscientes, mais d'une certaine façon volontaires, qui entravent les humains, limitent leur potentiel par souci de sécurité, bien souvent. Pensez-vous, alors là je pose la question un petit peu aux deux, pensez-vous vraiment le genre humain plus prompt à choisir la perte de sa liberté, quitte à devenir esclave, à accepter la tyrannie des injustices, plutôt que de faire l'exercice plein et entier de la liberté en s'inventant des modèles de vie utopiques, ou bien tout simplement au plus près de la vie en ce qu'elle est mouvement naturel et changement permanent?
Oui, alors déjà ce que vous avez lu, Béatrice, a été édité par Michel Fievé à l'Aïe des Ours dans le dernier recueil Sous le signe des oiseaux, je crois que vous l'avez oublié tout à l'heure. C'est une bonne question, une fois de plus. Oui. Je dirais, hélas, oui, les hommes, les femmes préfèrent leur quotidien, leur routine, se fermer les yeux, cette fameuse zone de confort. La liberté, c'est un exercice extrêmement difficile. La liberté, ça demande de sauter sans filet, ça demande d'être prêt à sacrifier beaucoup de choses. C'est un exercice solitaire aussi. Et je pense que peu de gens en sont capables. Je crois que c'est un idéal, sans doute une utopie, comme la démocratie. Peu de gens sont prêts à vivre pleinement ce qu'ils doivent vivre et à être pleinement ce qu'ils sont faits pour être. Et c'est pas tout à fait un hasard si dans d'autres époques sombres, il y a eu ceux qu'on appelait les justes. Il n'y en a pas des masses.
Eva, vous avez une réponse à donner aussi?
Je pourrais dire la même chose, Albertine. Tu l'as bien formulé mieux que je puisse le faire. Et peut-être juste une pensée qui mène vers la poésie. Il y a une citation d'un poète allemand, Günther Kunert. J'ai pas exactement les mots, mais il dit « In jedem Gedicht ist etwas von der Verkehrtheit der Welt ». C'est-à-dire, la poésie essaie d'exprimer ou contient quelque chose de ce qui est faux dans le monde. Et ça, c'est la démarche qu'on fait en écrivant, nous, tous les deux, je pense, puisque ce qu'on ressent ou ce qu'on réfléchit qui ne va pas bien, soit à l'extérieur, soit en nous, doit être exprimé, cherche à être exprimé, pour peut-être, d'abord, c'est la réflexion, pour s'en rendre compte, en même temps pour chercher peut-être une image, un chemin, oui, une ouverture, mais sans pouvoir donner une solution, mais une pensée là-dessus.
Vous écoutez Les Mots d'Azur ou la poésie en direct. Aujourd'hui, mes invités sont Albertine Benedetto et Eva Maria Berg. Les auditeurs le savent, Eva et Albertine, il y a dans cette émission une constante qui est que les invités offrent aux auditeurs une musique, une chanson, partagent avec eux quelque chose qu'ils aiment ou qui les accompagne dans leur écriture. Quel serait votre choix, Eva et Albertine? Quelque chose sur lequel vous vous mettiez d'accord toutes les deux?
Et alors, d'un commun accord, le titre que nous allons entendre est
« La mémoire et la mer » de Léo Ferré.
Voilà, « La mémoire et la mer » de Léo Ferré.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, la rime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Oh, l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse, revient fille verte des fjords, revient violon des violonades, dans le port, fanfare les corps, pour le retour des camarades, au parfum rare des salons, dans le poivre feu des gerçures. Quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé, dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen, les coquillages figurants sous les sunlight cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure, et je voyais ce compressant. Quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaque où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui meurent. Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte, cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage, le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère.
d'entendre « La mémoire et la mer », le choix musical de mes deux invités, Albertine Benedetto et Eva Maria Berg. Alors, je pense que ce n'est un secret pour personne. Eva, vous aimez la peinture, la fréquentation des œuvres d'art et plus généralement la fréquentation des artistes. Est-ce que vous trouvez une stimulation supplémentaire devant une toile ? Est-ce que le fait d'être touché par une œuvre vous fait prendre un crayon et écrire ? Y a-t-il comme un prolongement possible entre l'œuvre et un de vos poèmes, comme une extension de l'œuvre grâce au poème ?
D'abord, tout le monde a plusieurs sens. On voit, on écoute donc la musique aussi, et on a les mots, on parle. Et malheureusement, je n'ai que les mots, mais j'ai toujours admiré les autres arts ou les autres formes d'expression. Et pour moi, c'est un grand bonheur d'être confronté ou de me confronter ou d'avoir la chance de voir les œuvres, d'écouter les œuvres des autres qui sont vraiment stimulants pour moi. Et donc, je pense, j'avais pas mal de coopérations avec des artistes visuels ou musiciens. Ils en peuvent sortir encore d'autres choses de moi. Par l'échange, par la vue, par l'écoute, et c'est un enrichissement, une possibilité. Aussi pour la langue qui reçoit une sorte d'écho par l'autre art. C'est aussi un échange et un enrichissement ensemble, je pense, j'espère.
Alors, Albertine, et ce n'est un secret pour personne non plus. Vous aimez les arts plastiques, la musique joue aussi un rôle important dans votre vie. Un piano d'ailleurs trône dans votre salon. Et puis vous aimez dire des textes, lire à voix haute. Est-ce pour le sens du partage, pour l'atmosphère recueillie que cela génère, ou bien est-ce que lire à voix haute vous aide à mieux absorber le texte, le faire vôtre, le vivre, grâce à l'expérience corporelle du vocal ?
L'incarnation, c'est très important. Le corps, pour moi, est quelque chose d'important. La danse, je suis une passionnée de danse. La musique, je dirais que les arts plastiques viennent peut-être après. J'ai parfois du mal à apprécier vraiment l'art contemporain. Même si je pense, comme disait Baudelaire, que la meilleure critique d'un tableau, ce sera un poème, toujours. Mais c'est vrai que l'incarnation dans un autre art, et quand cet art passe par le corps, ça me plaît beaucoup. Et ça génère effectivement des échanges. Et ça, c'est toujours extrêmement stimulant. J'ai toujours aimé le travail d'équipe. Quand j'étais enfant, j'ai fait beaucoup de sports collectifs. Quand j'étais professeure, j'aimais travailler en interdisciplinarité. Et donc ce dialogue-là m'enrichit, me stimule toujours.
Je vais peut-être vous laisser choisir chacune dans vos livres un texte à lire.
Alors je vais lire encore un extrait de ces mémoires du Rhin. Tant de richesses dans le Rhin que les yeux s'allument. Des chariots de Hagen, ils tombent encore de l'or. Les chevaliers modernes ont des comptes en Suisse, se promettent le paradis, et dans leurs attaches écailles, les chantiers sont de toutes les profondeurs. Rien n'échappe à leurs regards de prédateurs. Les start-up s'habillent de couleurs mythologiques. La compétition est ouverte. Et les anciens dieux regardent assis sur les ruines fumantes de leur Valhalla, le nouvel or gisant dans le fossé rhénan, prêt à sortir de la saumure, avide d'eau, gourmand, comme seuls les hommes savent l'être, et qu'importe si le gaz de l'extraction étouffe la couleur du ciel, agenouille les peuples suffocants, les nouveaux chevaliers rêvent aux étoiles, à leur lithium cosmique, et les fées vertes jalousent les naines blanches. Mais prise de frissons, la terre ne croit plus à l'épopée romantique. Le rêve prométhéen s'abîme dans les marchés boursiers, l'homme rapetisse à la taille des écrans, Schlemihl court après des ombres, et la terre tremble, comme tremble un corps tétanisé, toutes ses terminaisons nerveuses suivant fissures et failles, comme tremble un corps possédé par la transe, immense bégaiement de l'être qui tente d'expulser une parole vraie.
Merci. Donc là, on a entendu le côté écologique. Eva ?
Oui. Aussi de notre livre « Mémoire du Rhin » d'Aaron Erinnerung. Je lis en français et en allemand. Je commence par l'allemand. « Kein Dach hoch genug, kein Wolkenkratzer so wasserdicht, um dem plötzlichen Aufbäumen des Flusses standhalten zu können. Und wie könnte ein Dach groß genug sein für uns alle? Und welche Wolke nähme uns auf für den Flug? Und wohin könnte sie ziehen? Gibt es noch einen Planeten, der nicht von den Menschen zugrunde gerichtet ist? Aucune digue n'est assez haute, aucun gratte-ciel si étanche pour pouvoir résister au soudain déchaînement du fleuve. Et comment un toit pourrait-il être assez grand pour nous tous? Et quel nuage nous accueillerait pour le vol? Et où pourrait-il se déplacer? Existe-t-il encore une planète qui ne soit pas anéantie par l'homme?
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on ne s'est pas du tout concerté pour choisir l'extrait et que ça se répond extrêmement bien.
Il y a un titre d'un de vos livres d'artiste Eva qui porte un titre amusant. Il s'agit de « Cloison à coulisses » qui est publié aux éditions La Lune Bleue. Et les éditions La Lune Bleue est dirigée par Lydia Padelec qui est poète elle aussi et plasticienne. La collection des livres publiés par Lydia sont tous de très jolis objets et ce « Cloison à coulisses » ne fait pas exception. Le texte est accompagné par des portraits d'Eva Largo. Vous dire aussi que le livre commandé arrive chez vous, signé de l'autrice, de l'éditrice et de la plasticienne. Alors la première fois que j'ai lu ce titre aussi, je me suis imaginé que j'allais pénétrer dans un intérieur japonais où l'on tire des cloisons selon que l'on veut agrandir ou séparer des espaces, des pièces. Et d'ailleurs, certains poèmes sont si courts qu'ils pourraient tenir du haïku japonais. Alors, vous allez en lire Un petit exemple en allemand.
Oui. Noch schlägt die Tür, bevor sie ins Schloss fällt und Wind einsperrt. La porte bat encore, avant de se fermer et d'enclore le vent.
Ce petit passage se termine par « enclore le vent » et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec le piston à coulisses. J'aimerais bien que vous nous présentiez un petit peu en quelques mots ce livre, Cloison à coulisses, et qu'est-ce que c'est pour vous que cette cloison à coulisses, Eva ?
Ça donne beaucoup, beaucoup d'associations pour moi. C'est un inferno, en même temps l'idée de l'ouverture. Et aussi, une coulisse n'est rien de la réalité. Donc, c'est créé, c'est artificiel. Et alors, c'est aussi l'imagination. Qu'est-ce qui est vraiment réel? Qu'est-ce qui n'existe pas? De mettre en question ce qu'on voit aussi. Et de bouger, si possible, ce mur. Pour ouvrir, pour entrer dedans, pour découvrir.
Albertine, je vais revenir sur ce livre intitulé « Vider les lieux », publié aux éditions Almanach en 2019. Alors, « Vider les lieux », il ne s'agit pas d'expulsion, de loyer impayé, de squat, rien à voir avec la loi, sinon celle universelle pour les vivants qui est de mourir un jour. Et quand un proche meurt, on trie et on vide en effet. C'est donc à l'expérience de la disparition que vous conviez le lecteur et on vous suit dans une trajectoire qui va du souvenir d'enfance au mouvement de détachement nécessaire pour continuer à vivre au présent. Et vous terminez le livre avec ces trois vers. Reste le trésor de l'enfance, cette force d'amour à l'usage du temps, une furieuse envie de vivre. un peu comme si, lorsqu'on vide les lieux comme vous l'avez fait, on allait aussi au-devant de soi. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce livre, Albertine ?
Oui, c'est un livre auquel je suis effectivement très attachée, puisque c'est après la disparition de mon père que j'ai donc vidé la maison. Et comme c'est une expérience absolument universelle, tout le monde un jour perd des êtres chers, si ce n'est ses parents, mais des êtres chers. C'est l'expérience que tout le monde connaît de la perte, du détachement, du manque, et en même temps du mouvement. Vider les lieux, c'est important parce que il ne faut pas rester au même endroit, paralysé par le chagrin. La vie est là, et c'est vrai que cette furieuse envie de vivre, qui sont les derniers mots du recueil, me caractérise aussi profondément. Donc le souffle, le mouvement, c'est ce qui m'est nécessaire, et c'est pour ça aussi que actuellement je pratique une discipline corporelle qui est une danse sur les lettres de l'alphabet hébreu qui s'appelle la Teima. Et c'est une sorte de yoga qui va passer par énormément de souffle, de respiration, de mouvement. C'est une méditation en mouvement. Et c'est une expérience aussi intéressante par rapport à l'écriture.
Et oui, parce qu'on l'oublie parfois, mais l'écriture, ça a à voir avec le souffle, effectivement. J'ai lu Eva Maria dans une critique écrite par Anne-Marie Zucchelli, qu'elle reprenait un de vos vers pour en faire votre raison d'écrire. Et ce serait « Pour ne pas que le trou reste béant dans la mémoire ». Pouvez-vous commenter et nous dire si ce « Pour ne pas que le trou reste béant dans la mémoire » est réellement ce pourquoi vous écrivez ?
Qualités humaines et d'avoir la possibilité de mémoriser et peut-être aussi d'exprimer les mémoires. C'est très important, essentiel pour moi, pour les humains, de se rendre compte de ceci qui s'est passé dans la vie privée peut-être, mais aussi dans l'histoire. Avoir un regard aussi sur le maintenant et aussi vers le futur.
Alors, Albertine, toujours dans Vider les lieux et en évoquant la Via Appia, vous écrivez « Nous, les vivants, descendus sous la terre, nous cherchons, comme un avant-goût des ténèbres, comme un monde d'emploi, ou quoi ?» Donc, est-ce que pour vous écrire est un élan en quête de mode d'emploi ?
C'est une façon de regarder, c'est une façon de sentir, c'est une façon de s'ouvrir. Un mode d'emploi, ça nous enferme. Or, moi, j'aime bien sauter les barrières. Dans ce poème qui évoque les catacombes, je le dis sous forme un peu ironique et dérisoire. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a juste une attention aiguë à ce qui se passe et une façon de réagir qui passe par l'écriture.
Il va me falloir, hélas, rendre l'antenne et le temps file vite en votre compagnie. Nous aurions pu parler de vos futurs projets. On va peut-être en dire juste un petit mot quand même. Savoir qu'Eva Maria Berg sera de nouveau en France en juin sur le marché de la poésie à Paris. Donc, si vous voulez la rencontrer, montez à la capitale. Quant à Albertine Benedetto, allez lire sur sa page Facebook. Et là, il vous faut taper Albertine Libra. Donc, sur la page Albertine Libra, vous pouvez lire Un été grec. Un été grec relate donc les aventures d'Albertine en Grèce l'année dernière et ce manuscrit cherche désormais éditeur. Merci infiniment à toutes les deux pour ce temps que vous avez donc pris sur le vôtre, pour ce partage. C'était Les mots d'azur ou la poésie en direct. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain avec un nouvel invité et d'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.
Merci Béatrice.
Merci beaucoup Béatrice.